Après le Japon, nous allons nous parler du cinéma chinois, puisque quatre films sont sortis récemment, en vidéo ou au cinéma. On va se reporter à notre podcast précédent pour avoir notre avis sur Un éléphant sitting still de Hubo, qui est un film assez important, mais qui est sorti en début d'année, dont nous avons déjà assez largement parlé. Très triste, merci Kéfren. Pour parler d'Un grand voyage vers la nuit de Big Anne, qui est sorti aussi en ce début d'année. Kéfren, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est un film important?
Est-ce que tu peux résumer?
Et pourquoi Big Anne n'est pas connu en France que parce qu'il a un nom facile à retenir?
Ah ouais. Ah, pourquoi c'est un film important? Ah, parce que c'est le deuxième film de Big Anne, qui est un jeune cinéaste chinois qui n'a pas encore fait et qui est à l'influence des plus grands cinéastes taïwanais et un peu russes, parce qu'il revendique beaucoup Tarkovsky. Et donc son premier long métrage, Kylie Blue, était un espèce de choc esthétique et narratif aussi. Et il continue dans cette lancée en essayant de creuser les sillons de possibilités cinématographiques à travers les nouveaux moyens aussi bien moyens digitaux, mais tout en cherchant à raconter de nouvelles histoires enfouies dans sa ville de Kylie.
Est-ce que quelqu'un veut s'aventurer à résumer le film?
Non, c'était une blague en fait pour Kéfren.
Le résumé, disons que c'est assez similaire à Kylie Blues dans l'approche narrative, c'est-à-dire que la première partie du film est composée de fragments antichronologiques d'un narrateur et d'une histoire d'amour à Kylie et d'une histoire d'amour avec une femme. Donc tout est entremêlé, on passe du présent à un passé, ensuite un passé encore un peu plus lointain pour revenir dans le présent. Tout ça matiné, évidemment, comme le disait Jean-Luc Godard, de femmes et d'armes à feu. Donc ça, c'est passionnant. Et la deuxième partie, donc, dans ce côté fragmentaire, il y a un espèce de côté très, très surréaliste, pas dans le cinéma surréaliste, mais dans la littérature surréaliste. Je pense à des auteurs comme Michel Léris notamment, qui explosaient complètement la narration de leur roman, notamment en se basant sur leurs rêves. Ils incorporaient des rêves au sein de leur roman. Et c'est tout à fait ce que fait Big Anne, puisque dans la deuxième partie du film, qui est donc un fameux plan-séquence de 50 minutes, on peut le prendre comme un long rêve, ou un rêve éveillé. À savoir, assez rimbaldien aussi d'ailleurs, si on pense à des références romanesques ou poétiques. Et donc, Big Anne vraiment joue sur ce côté assez expérimental, mais finalement très, très, très brut. En fait, même s'il est dans l'expérimentation, on reçoit d'emblée toute l'histoire et on peut quand même la sentir et la ressentir en nous. Donc c'est pour ça que même si c'est déroutant, surtout la première partie du film qui est très fragmentaire, très exposée, on rentre quand même vraiment dans son histoire et surtout dans l'ambiance qu'il essaye de faire passer dans son film.
C'est un petit peu difficile d'intervenir derrière Marc, c'est des analyses très pertinentes. Moi simplement, voilà, comme Kéfren le disait tout à l'heure, c'est assez dans la continuité de Kylie Blues, son premier film. Cela dit, j'ai beaucoup plus apprécié moi ce deuxième film. Bon, je pense qu'une bonne partie de ça vient du fait que je venais préparer, que Kylie Blues je ne savais pas du tout ce que j'allais voir, donc j'ai été assez décontenancée par la narration déstructurée. Mais j'ai quand même l'impression que là, dans ce deuxième film, malgré le fait que la narration est très fragmentée, il y a une sorte de continuité émotionnelle qui fait que toute la première partie du film, même si c'est assez divisé, finalement on baigne dans une sorte, enfin dans les sentiments du personnage, dans ce retour donc vers sa ville natale. On va avoir des éléments de son passé, on va avoir des éléments de son peut-être un futur. Enfin en fait, on ne sait jamais exactement où on est dans le temps, mais quelque part c'est cohérent parce qu'on se sent vraiment dans la tête de ce personnage, dans tout ce qu'il peut être amené à éprouver à travers cette histoire avec cette femme, mais qui est aussi une histoire avec une ville.
Moi, c'est pour supplanter ce que dit Marc sur les influences littéraires. En fait, il a vraiment des influences littéraires, mais... oui. Enfin, je voulais dire ça parce que avant de commencer sur le tournage, moi, j'ai des amis qui travaillent sur le film, et justement, Bigal leur demandait d'apporter certains livres d'auteurs français et des choses comme ça, bien précises, et qui voulaient ça, ouais. J'ai oublié. Mais, en fait, je peux lire dans les 5%. Mais... ouais, et il a demandé de donner ça, et en fait sur le tournage il discutait souvent avec eux de littérature et des choses comme ça, mais de littérature sous ultra, non pas contemporaine mais post seconde guerre mondiale et des choses comme ça très
donc il serait peut-être influencé un peu plus dans ces cas-là par le nouveau roman qui est aussi explosé complètement totalement la narration, c'est vrai que
par exemple.
Après, il est pas, quand il est sous influence littéraire, effectivement, il y a cette fragmentation de la narration qui peut être dans cette modernité littéraire, mais il offre quand même une expérience qui est purement cinématographique, c'est-à-dire que, même dans cette première partie qui est déstructurée narrativement, on a des repères visuels, des structures, des éléments qui reviennent, qui fait qu'on arrive à restructurer la narration, en fait, avec uniquement des repères visuels. Et surtout la deuxième partie, qui est un plan séquence, et aussi en 3D, on ne l'a pas dit encore, amène une véritable expérience cinématographique, c'est-à-dire que c'est que du cinéma, et on est vraiment dans cette expérience-là. Donc ça s'affranchit aussi de cette...
Absolument,
ça aide à comprendre des éléments qui restaient obscurs de la première partie, il y a des réminiscences au niveau de personnages... des variations de personnages dans la scène de rêve, des variations de situation, des variations d'émotions qui gagne à être vu une deuxième fois, parce que je pense que la première partie devient beaucoup plus limpide et beaucoup plus accessible.
Il y a plein d'objets symboles qui reviennent dans la deuxième partie, qui sont évoqués ou montrés ou racontés dans la première partie. Bon, moi, ce que je trouve incroyable sur ce cinéma, c'est qu'on part d'un film de 2 heures, un peu plus de 2 heures, et en 2 heures, on a l'impression de traverser je ne sais pas combien d'univers, je ne sais pas combien de mondes, je ne sais pas combien de temporalités qui se croisent. Et j'ai l'impression que, pareil, il n'y a pas d'une autre manière, il n'y a pas de limite, quoi. Y a pas de, c'est jamais enfermé ou dans un carcan, c'est jamais quelque chose où il dit à un moment, ouais, là, c'est pas assez structuré, là, c'est pas assez... voilà quoi, il essaye toujours, et pourtant ça reste cohérent, ça reste...
Mais c'est comme dans un rêve en fait, où des fois il y a des transitions bizarres quand on rêve, ou des choses étranges, mais ça nous semble naturel parce qu'on est en train de rêver, et dans le film c'est comme ça, ça se déroule.
C'est ça, j'ai jamais vu au cinéma la représentation du rêve de cette manière, du subconscient même, j'ai l'impression qu'il a représenté le subconscient.
C'est très précis, c'est très maîtrisé, très détaillé. C'est tout dans le détail, parce que je pense que Guillaume, de toute façon, est un cinéaste qui est très dans le détail, où tout doit être... quelque chose ne lui plaît pas, il faut tout refaire, machin, c'est un peu ce que tu veux dire. Ouais. Et du coup, voilà, par exemple, juste l'idée de mettre cette espèce de bruit de vent, toute la séquence, justement, du plan, tout le plan séquence, où cette espèce de bruit de vent qui siffle à l'oreille, et qui donne un peu ce souffle, cette ambiance, où on est transporté, on vole presque, avec les personnages d'ailleurs, sans trop en dire plus, mais... Et voilà, puis c'est aussi qu'elle sait pas que des fois dans dans ce genre de procédé, on peut manquer d'émotion, on peut manquer de. Et je trouve au contraire que l'émotion se libère au fur et à mesure du film, notamment par la mélancolie de l'histoire du personnage.
Et puis l'émotion arrive par plusieurs moyens. Voilà, elle arrive par le récit, elle arrive par la forme, par ce qu'on voit à l'écran, et il y a aussi en quelque sorte par le défi visuel que le réalisateur s'impose avec ce plan séquence, et ce côté vraiment sur le fil où on ne sait pas si ça va fonctionner, si voilà, il y a tout un jeu avec le spectateur et avec le...
Mais du coup, ça n'empêche que moi, je ne sais pas si c'est un reproche que je fais au film, mais qui est que on voit quand même le film en train de se faire dans cette deuxième partie, ce qui est bien c'est intéressant, et d'un autre côté, effectivement, moi j'ai moins ressenti cette implication émotionnelle parce que j'ai aussi senti cette performance qu'il y avait dans la deuxième partie, et parfois dans certains éléments de la première, sur des plans qui duraient.
Bon, honnêtement, la performance...
J'ai été stimulé intellectuellement.
Moi, la séquence avec son...
La performance, je l'ai senti juste à un moment où je me suis dit que j'ai pensé à la côté technique, c'est le moment où on flotte, justement. C'est le seul moment où le reste du temps, j'étais en porte. Le moment où on flotte, parce qu'on se dit comment il a fait... Comment la caméra... Mais c'est le seul moment où je me suis posé ça, c'est le reste du temps... J'étais pris...
Oui, parce que c'est la manière dont on voit... En fait, c'est pareil, c'est toute une histoire de mise en scène, tu vois ce village au loin dès le départ du plan séquence. En fait, après, tu t'éloignes, tu as la scène de séquence du
en téléphérique,
mais c'est, ouais. Et du coup, tu as la manière de revenir dans les décors, de c'est un peu comme dans Caliblues, tu avais la même chose, hein, quand tu traversais ce village en bateau, tu voyais d'un côté, l'autre, tu passais d'une maison à l'autre, comme ça, et tu t'es jamais perdu, en fait, tout de suite, tu sais, peut-être, t'as l'impression d'avoir toujours connu un peu ce village, qui pensait à une espèce de village un peu de l'époque Mao, voilà, et puis c'est... Non, franchement, c'est impressionnant. Moi, je trouve, par exemple, la séquence avec son... ce qu'aurait pu être son fils, donc... Si c'est dans ce film, il y a une espèce de d'invocation du possible futur du personnage. On ne sait pas s'il existera ou s'il a déjà existé. Enfin, ça, c'est toute une traversée de temporalité comme ça. Et je trouve la séquence avec son fils très émouvante parce qu'elle rappelle tout ce que le parcours du personnage a raconté dans la première partie.
C'est là que l'émotion, arrive.
C'est là où l'émotion commence vraiment à ressortir par rapport à tout ce qu'on a vu dans la première partie.
Parce que l'idée est forte, l'idée d'un père... qui fait une partie de ping-pong avec le fils qu'il n'aura jamais, et quoi, c'est super fort.
C'est une idée absolument bouleversante.
Kéfren, aussi, on parlait du rêve, ouais, et c'est aussi le rêve du cinéma chinois, mais de l'ensemble du cinéma chinois. C'est-à-dire, Began, qui fait partie de la 7e génération de réalisateurs, techniquement, même si des gens comme moi. Mais en fait, les anciens, bref, les anciens cinéma chinois n'acceptent pas, par exemple, Began ou. Déjà comme ça dans la 7e génération. Mais justement, son cinéma est l'ensemble, est une espèce de mix de l'ensemble du cinéma chinois, aussi bien du cinéma hongkongais que du cinéma taïwanais, que du cinéma de Chine continentale. Et il arrive à tout mixer comme ça à travers son espèce de séquence de rêve, mais également la pop culture chinoise, parce que genre le personnage de Tang Wei, son nom est en fait le nom d'un personnage d'une série qui passe à Hong Kong. Et c'est une série un peu à la Buffy, mais avec des personnages de vampires et des choses comme ça. Et en fait, Began fait aussi des références un peu à cette série à travers des questionnements métaphysiques et des choses comme ça.
Mais il y a un aspect aussi très vidéoludique dans la scène de rêve où en gros tu dois battre en gros des boss pour avancer dans le rêve. C'est notamment la partie de ping-pong au début. Ensuite, tu as la scène en scooter, le téléphérique. Le insert coin avec la machine à sous, le billard, les
même quand ils sont coincés, il y a une porte, ils sont coincés,
c'est bon. Absolument, c'est en gros toujours essayer de trouver la petite cinématique qui fait qu'il va avancer finalement dans
l'adapté d'un jeu de From Software.
Ouais.
Le level design et tout là,
parfait. Voilà, c'était donc un grand voyage vers la nuit de Began. Donc je pense qu'on va y revenir sur notre podcast bilan de fin d'année, c'est un film. Important cette année. On va parler d'un autre film important de la génération précédente, Les Éternels de Jia Zhangke. Qui veut le résumer?
Ça parle de. C'est l'histoire d'un couple.
Tu peux spoiler.
Voilà. C'est l'histoire d'un couple dont l'histoire est étalée sur 12 années, me semble-t-il. Donc non. Ça. Non, c'est plus de 12 ans.
Une vingtaine d'années, je crois.
20 ans peut-être.
17.
C'est moins que ça.
Je pensais que c'était 12 ans.
Moi aussi, j'aurais dit 10, 12 ans.
Non, ça commence en 2000 et ça se termine à une autre époque.
D'accord, 17 ans, on va dire.
Il y a des marquages temporels qui sont extrêmement marqués.
Comme son côté
Began. Voilà. Donc ça parle de ce couple-là. Donc le film est en trois parties, comme la plupart des derniers films de Jia Zhangke. Donc la première partie commence avec ce couple, qui est un couple un peu de malfrats de province, qui gère des boîtes de nuit, il n'y a pas de deal de drogue encore, mais en gros c'est, ouais, c'est gérer des boîtes de nuit, c'est des petites frappes de Chine du nord-est.
C'est sur le jeu, hein, ils sont un peu, ils travaillent sur
le mahjong.
Le jeu et puis les boîtes de nuit.
En fait, ils gèrent le jeu et la boîte de nuit.
Voilà, c'est donc c'est un peu loose, mais ils arrivent quand même à en vivre et c'est un peu les stars de la ville. Et en gros, on va suivre cette évolution en trois temps, voir en gros comment est-ce qu'ils vont évoluer, passer de ce passage de malfrat à la petite semaine, à, en gros, soit des hommes d'affaires qui ont réussi à s'enrichir dans le commerce légal et dans le commerce international chinois, ou alors est-ce qu'ils sont tombés vraiment très bas, ou comment est-ce qu'ils vont s'en sortir dans les métamorphoses assez fulgurantes de la société chinoise, voir comment, en gros, est-ce que des malfrats peuvent devenir du jour au lendemain des hommes respectables, ou au contraire, comment un homme respectable peut devenir un zéro, ou un malfrat peut devenir... C'est un ascenseur émotionnel et un ascenseur social résumé en deux heures, et qui résume un petit peu les méandres de la société, de l'évolution de la société chinoise, enfin comme le fait Jia Shangke
depuis le début. Et c'est étonnant parce que Jia Shangke résume aussi toute sa filmographie dans ce film. Il revient par exemple sur le barrage des Trois Gorges qu'il avait déjà filmé
sur aussi sur les ovnis.
Sur les ovnis,
il y a un petit clin d'œil.
Et il utilise cette fois le polar, le film de gangster. Pour parler effectivement des évolutions de la Chine, et en même temps il revient sur son cinéma, donc il y a une espèce de discours méta là-dessus, et surtout le film est aussi encore une ode et un portrait de Zhao Tao, qui est présent pratiquement dans tous les plans du film, son actrice fétiche, sa femme encore, je crois, donc voilà, c'est le mieux on peut dire, et qui est un magnifique portrait de femme aussi. Ouais.
Non, mais c'est impressionnant, c'est qu'il est... c'est pas un cinéaste qui s'enferme dans un genre précis ou dans un style précis. Je trouve qu'encore son film est traversé par plein de courants de cinéma chinois. On pense un peu au cinéma hongkongais, forcément, à un moment avec une espèce de baston.
Et puis il y a des références explicites, il y a la chanson de Zuxilor.
C'était son objectif à la base, et il a dit qu'il voulait faire. Un film, un film de gangster, mais un film continental. Parce qu'il a dit que ce sont des codes qui se perdent dans la Chine continentale. Et à Hong Kong, ils ont déjà fait des tas de films sur ça, mais il n'en existe presque pas dans la Chine moderne.
Il y en a plus sur ça.
Et comme même ce genre de personnages vont de disparaître à cause de l'évolution de la Chine, il a juste besoin de les capturer maintenant.
C'est pas si romantique que ça, c'est beaucoup moins romantique que le...
C'est moins romantique qu'à
Hong Kong.
Lui, c'est un peu un loser quand même. Ouais. Il est très très vénérant.
C'est moins romantique déjà par le côté topographique, c'est-à-dire qu'à Hong Kong, t'as les néons dans tous les sens, tu peux vraiment te la jouer genre ville-lumière, alors que quand t'es dans une province du nord-est de la Chine, c'est un peu plus loose.
C'est moins de l'amour.
Mais ça reste au niveau de le côté de Jiang Wu, ce côté un peu chevaleresque, ça reste au niveau de l'émotion. C'est le personnage de Zhao Tao qui prolonge ça, parce que c'est la seule à rester fidèle au final, dans la dernière partie, à garder ces préceptes-là à travers le personnage du gangster qui est lui une pourriture finie, qui est prêt à tout.
Super loser, quoi.
Oui,
c'est
surtout ça, oui.
Il a de la pourriture, c'est vraiment une grosse.
Et puis même et en plus il garde ce côté, il garde cette espèce de fierté mal placée. Même dans la dernière partie, alors qu'elle, elle reste humble en l'aidant, regarde ce côté chevaleresque, respectueux des traditions.
Elle est toujours amoureuse, je pense, tout simplement.
Oui.
Je sais pas ce que ça dit sur leur couple, d'ailleurs.
Bah, il filme ça comme un grand mélodrame.
C'est un peu l'équivalent cinématographique chinois contemporain de Like a Rolling Stone de Bob Dylan. J'avais tout, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui se passe, quoi.
Dans la première partie, ça se tient quand on voit par exemple, il y a un type qui sort de prison et puis qui lui amène une mallette de billets parce qu'il a aidé pendant qu'il était prisonnier. Et donc ça reste au niveau des traditions gangsters. Et puis plus on avance, plus cette fidélité, c'est plus dans l'émotion, dans l'amour du personnage féminin.
Quoi. Après, j'ai pas l'impression qu'il s'intéresse vraiment à l'histoire de gangster ou.
Bon, ça se tient relativement bien la première partie.
Plus en contexte qu'en objet. Enfin,
c'est ça, oui.
Il veut juste filmer les codes.
Je pense qu'il l'intéresse, c'est vraiment Zhao Tao et vraiment.
L'ambition romanesque est plus.
Je pense que c'est un film sur l'amour d'une femme, jusqu'où ça peut aller.
Et voilà, c'est ça. Finalement, il le fait dans la première partie. Avec une scène de combat d'ailleurs, et une fois qu'il l'a fait, il est d'un peu j'en suis capable et j'ai rendu mon hommage. Et après,
il passe à autre chose.
Une bonne scène de combat d'ailleurs.
Oui, carrément.
Ouais. Ce qui l'intéressait, c'est aussi le romanesque. Enfin, c'est ce qu'il a commencé à faire depuis. C'est qu'il veut s'inspirer des grands romans chinois pour les refaire de manière cinématographique sur la société chinoise contemporaine.
Ce que je trouve impressionnant, justement, c'est comme il arrive à chaque film, et donc surtout ces trois films-là, où il arrive à retranscrire ses séquences dans la Chine contemporaine, et son évolution, comme tu disais, Marc. Et vraiment, on a l'impression d'y être.
Il n'oublie pas son cinéma, surtout.
J'ai l'impression qu'il a une telle connaissance de son histoire, de la Chine en général, que ça se retranscrit dans ses films, et je trouve ça assez impressionnant.
Non, puis c'est un grand cinéaste qui n'oublie pas son cinéma tout en essayant d'insuffler autre chose. Il ne perd pas ses obsessions, et il y a des séquences où c'est vraiment. Quand tu regardes ça, tu te dis putain, quoi, le mec il te fait des trucs, c'est précis, c'est. Mmh. Il te dit avec très peu de. Voilà, très peu de choses, il t'en dit énormément, et ça c'est la marque des plus grands pour le coup.
On voit dans Les Éternels les gangsters regarder The Killer de John Woo et écouter Sellier. John Woo qui est de retour, on va en parler très brièvement avec Manhunt qui est sorti directement en Blu-ray et DVD.
Oui, alors Manhunt, c'est un remake d'un film japonais qui avait eu un énorme succès. Je crois que c'est l'un des plus gros succès en Chine continentale à l'époque. Et donc des producteurs sont allés voir John Woo qui sortait d'une période un peu difficile.
C'était bien ce coup-ci.
Oui, enfin entre temps il a eu un cancer, donc bon voilà, oui, je pense que voilà il a failli crever le pauvre.
C'était bien ce coup-ci.
Voilà. C'était ça la période difficile.
Et The Crossing, enfin voilà, pour revenir brièvement, il y a de quoi faire un très grand film. Il faut peut-être qu'un jour quelqu'un s'attelle à le faire. Oui, voilà, mais il y a des très bonnes choses dans le film. Par contre, là, c'est plus difficile pour Manhunt. On parle d'un film japonais qui, à la base, n'est pas bon. Et on essaye d'en faire quelque chose un peu plus contemporain, on va dire. Et John Woo essaye d'y plaquer, en gros, toutes les ses marques de fabrique, si tu veux, pour un peu plaire à son public, mais ça passe pas du tout, quoi. C'est-à-dire que forcément on a les colombes, on a les fameux mecs qui se braquent avec les flingues, l'amitié virile, tout ça. Ça se passe entre divers pays, on parle trois langues et tout très mal, donc c'est vraiment un gros problème, surtout quand ils parlent en anglais. Alors là vraiment c'est une catastrophe. Des fois il y a des films qui valent le coup d'être doublés, quoi, voilà, où on parle qu'une seule langue, on s'en fout, quoi. Mais là vraiment c'est pas possible, et on arrive à une espèce de finale complètement foirée, quoi. C'est-à-dire que là où John Woo a fait toujours une espèce de montée, en puissance, là on arrive dans une espèce de labo où les mecs se mettent des super pouvoirs, je sais pas, à la con, pour se tirer plus dessus. C'est complètement aberrant, et surtout le film c'est une tristesse vraiment terrible, parce que
on a l'impression qu'il a. Comme c'est lui qui a fait le scénario, c'est un remake, mais je veux dire, à la base, le scénario, t'as l'impression qu'il a pris le scénario du film d'original, il a essayé de l'amener dans cette espèce de truc pseudo-techno-thriller de Mew 2.
Oui, apparemment, il y a eu des problèmes avec la production, parce que le truc aurait été plus ou moins réécrit. Il a essayé
d'aller. Écrit comme dans les années 80, en fait.
Et puis lui, il essaie de. T'as l'impression qu'il essaie de replaquer son style des années 90,
dans la première scène.
Voilà, mais ça va, ça fonctionne pas. C'est-à-dire, les grands temps, les compagnies, ça c'est plus du tout. Aujourd'hui, ça pique les yeux, quoi.
Il y a une interview de John Woo dans ce film où il dit.
C'est Malmovice plutôt.
Faire un bon film si j'avais eu des bons acteurs et un bon scénario.
Oui.
C'est un peu facile, quoi.
Non, mais
si j'avais eu des acteurs, tu pourrais diriger tes acteurs aussi.
Le montage n'est pas bon du tout.
Surtout que l'une des actrices, c'est sa fille.
Il essaye quand même.
L'une des actrices et sa fille, l'une des deux plus vieuses.
En fait, ils sont en train de dire que sa fille ne sait pas jouer.
Voilà. Oui, mais. Peut-être que la fin de la citation, c'est à l'exception.
À l'exception de ma fille.
Et du coup. Déjà, s'il a engagé sa fille, c'est peut-être parce qu'il n'arrivait pas à trouver d'acteur.
Parce qu'il voulait engager sa fille, quoi.
Il n'arrive pas à trouver d'acteur, lui.
Sens de la famille.
Et c'est dommage, il y a des bouts de scène qui fonctionnent, on dit tiens, ça y est, il retrouve quelque chose. Et puis tout de suite, d'un coup, c'est contrebalancé. Et voilà, et c'est. et puis on est triste, quoi. C'est,
du coup, on après, va...
voilà. Non, faut pas, ça peut sentir dessus, c'est, voilà, ouais. C'est, il y a plein de films à revoir, j'ose espérer que peut-être qu'un jour, ils nous referont un bon film,
mais en tout cas... le remake au féminin américain de
The Oui, mais voilà, mais c'est ça qui est, je trouve, très triste, c'est qu'aujourd'hui, voilà, des cinéastes comme ça, ils sont obligés de revenir vers les films qui ont fait leur gloire.
Le problème, c'est que le truc, c'est qu'il était parti avant dans la presse historique, avec les trois royaumes.
Ouais, que c'est très bien.
Super, ouais, enfin, toujours aller maintenant, c'est, moi c'est une référence de tout ce qui est sorti dans les années 2000 en termes de spectacle. Et il a voulu, voilà, il a forcé le fait de vouloir revenir à ses premiers amours, quoi. Alors que
on a évolué. C'est un film de commande.
Oui, mais je veux dire, lui aussi.
Mais sa mise en scène aussi a évolué.
Il a envie de refaire ce genre de
film. Il est constamment dans le pastiche de ce qu'il a fait autrefois. C'est-à-dire que les plans qui étaient iconiques autrefois, aujourd'hui, ça passe plus. Parce que bon, je pense aussi son travail de la mise en scène a un peu évolué aussi. Ça travail les caméras. Et là, il te refait voilà, des plans super près, super grand angle, avec des grosses déformations de focales, des choses comme ça. Les raccords et tout, tu fais. Ouais, c'est bien les années 90, mais aujourd'hui, non.
Quand tu vois sa carrière américaine, moi j'aime pas tous les films de sa carrière américaine, mais un Volte-Face par exemple, il avait réussi à. Moi j'aime bien Volte-Face.
Aussi,
mon jeune. Ouais, il a réussi.
Son film préféré à 7 ans, attention.
Mais pareil, à peu près. Il avait réussi à l'époque à évoluer un peu par rapport à ça.
Oui, voilà.
Mais Dodger aussi était intéressant. Ouais.
Après, il semble qu'il a besoin aussi d'avoir des acteurs charismatiques à mettre en valeur, qui a toujours eu des bons castings.
Ouais, mais là c'est du savage. Voilà, je pense qu'il a envie de tourner. On lui a proposé ça, il a pris le premier projet qu'on lui a passé, quoi. Et c'est ça qui est triste. Et surtout, c'est t'as des mecs qui lui disent clairement, refais-nous ce que t'as fait autrefois. Et ça marche pas. Lui non plus, il croit pas, quoi. C'est vraiment.
Après, Tom Cruise lui avait dit ça sur Mission Impossible 2.
Et il est top, Mission Impossible 2, c'est le meilleur.
Oui, mais Mission Impossible 2, il y a quand même des scènes, comme la scène en moto qui est très bien réussie.
Il y a très
bien,
ce film.
Il y a des choses, voilà, bon. Et puis,
c'est pas dans la tour, hein, quand il saute dans le truc.
Non, puis, donc voilà, c'est pas la J.J. Abrams, ça, donc voilà. C'est
timé, rythmé, etc.
Alors, il a beau, et en plus, il a un beau brushing.
Les séances de danse sont séquences de danse sont
parfaites. Et Genou.
Podcast Mission
Impossible.
Ah, grave. Podcast Mission Impossible. On a beaucoup de podcasteurs séries du coup à faire là, j'ai l'impression. Et on va parler, donc on va aller à Singapour pour les étendues imaginaires, qui est peut-être encore en salle actuellement.
Oui, oui. Ça dépend quand Nico monte le podcast.
Voilà, ça dépend à quelle date on est quand on va le décider. Mais en tout cas, essayez de le
rattraper.
Allez, bien, nous présenter le.
Oui, bien sûr. Donc, Les étendues imaginaires est le premier long métrage de ce réalisateur singapourien qui s'appelle Yeo Soo Shua, distribué à l'international, puisqu'il s'agit de son troisième film, puisqu'il avait réalisé un premier long métrage quand il était étudiant, et ensuite un reportage sur la musique techno underground de Singapour. Voilà.
D'accord.
Tout à fait. Et donc là, les étendues imaginaires est son premier long métrage qui est distribué à l'étranger et qui a d'ailleurs été salué dans plusieurs festivals, dont le festival de Locarno.
Tout à fait.
Et qui ensuite a eu une vie festivalière.
Du coup, c'est Diane qui lui a donné le prix à Locarno.
Absolument. Je ne savais pas, mais...
C'est très intéressant.
C'est intéressant.
Donc à la fin de...
Parce que, en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, les étendues imaginaires, il y a à la fois une référence à Jiaxian Ke, mais il y aurait également une référence à Big Anne, puisque l'actrice Luna Kwok joue dans Kylie Blues. Et donc, les étendues imaginaires, donc film singapourien très cosmopolite, à l'image du pays Singapour, puisque c'est l'histoire d'un travailleur migrant chinois qui disparaît du jour au lendemain. Donc c'était quelqu'un qui travaillait sur les chantiers à Singapour. Il faut savoir que Singapour, c'est une île, c'est une presqu'île dont le territoire est vraiment très limité. Et depuis plusieurs années, sachant que Singapour, c'est un des pays les plus riches du monde, il importe beaucoup de sable de pays étrangers pour en fait
pour étendre des extensions
une extension, créer des ports, parce que c'est un des ports internationaux les plus importants du monde. Et donc il y a des travailleurs immigrés de Chine, de Malaisie, de Birmanie, de Philippines, vraiment de tous les pays du Pakistan, etc. Et dans ce film là Il y a donc un travailleur migrant chinois qui disparaît du jour au lendemain et un policier est chargé d'essayer de le retrouver. Est-ce qu'il a été assassiné? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème sur le chantier de construction du port? Et donc, ce policier arrive au sein de cette communauté à la fois du BTP et de la communauté migrante pour essayer de faire son enquête. Et quelque chose qui est d'un aspect très social, en fait, et n'est pas traité, c'est pas comme un film à la Dumont, quoi. C'est vraiment un film assez psychédélique et finalement quelque chose qui pourrait être très justement pessimiste et très terre à terre finalement est un peu élevé dans un niveau esthétique où on lorgne plutôt du côté d'un côté à moitié lynchien, moncarwayen au niveau de la photographie,
genre un peu cruising.
Ouais, un petit peu cruising, parce que c'est vrai que ça parle un petit peu du monde noctambule singapourien, surtout dans les migrants.
Il y a des backrooms.
Il n'y a pas de backrooms.
Il n'y a pas de backrooms.
Le policier en s'infiltrant, il se perd lui-même dans...
C'est ça. Parce qu'en fait, c'est le policier qui se perd dans son enquête et qui n'arrive plus à savoir, à démêler le vrai du faux, puisque les migrants, il y a un côté virtuel, puisque les migrants, en gros, les types n'arrivent pas à dormir. Et ils vont dans des cybercafés la nuit pour jouer à des jeux en ligne ou des choses comme ça. Et ce qui fait qu'ils perdent la notion de réalité, la notion de non-réel. Et le policier, il devient une sorte de migrant. Ce qui fait qu'en gros, il n'arrive plus à déceler vraiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Est-ce que Singapour est vrai? Est-ce que Singapour est faux? Et il y a tout un jeu là-dessus qui est vraiment très intéressant.
Oui, ben je rebondis sur ce qu'a dit Marc. On part un peu une sorte de drame social, un peu à la Diamond Island de David Chou, finalement, en fait, côté très cosmopolite. Non, mais au début, genre.
J'ai pas vu ce film-là.
Et en fait, au fur et à mesure, le film se transforme plus. Prend le pas du film de genre, où moi, j'ai même vu des réminiscences par moments de films de Kurosawa, en fait, notamment avec ce joueur. On ne sait pas si ce joueur fictif existe, il n'existe pas en fait. Il y a toute une mise en scène en fait de la réalité, de l'irréalité, du jeu, du rêve. Et j'ai trouvé que finalement, ce côté cosmopolite de Singapour qui est super mis en avant, il se retrouve aussi dans ce film en fait par la pluralité des genres qui vont être explorés au fur et à mesure. Et j'ai trouvé... Du coup, en fait, l'exploration de tous ces genres, super intéressant et très original par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude, en fait, du cinéma singapourien, qu'on voit assez peu, mais quand on le voit, on peut pas dire que... C'est du cinéma social. Et là, justement, ça s'élève au-dessus de ça, en fait, tout en gardant la trame sociale. Et donc, voilà.
Justin. Oui, parce qu'en fait, pour expliquer, en fait, le film démarre avec l'enquête du policier. Et... Tout d'un coup, donc sans explication particulière, on passe du point de vue du fameux ouvrier chinois qui a disparu. Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on ne sait pas si c'est un flashback, on ne sait pas si c'est un effet narratif, on ne sait pas si c'est un rêve, parce qu'en fait, il y a le policier est insomniaque aussi. Donc il y a un côté somnambule qui se transmet à travers l'ouvrier chinois qui est également insomniaque. Donc on ne sait pas dans les souvenirs de qui on se trouve, de quel point de vue on aborde l'histoire. Donc il y a ce côté-là qui traverse tout le récit. Et jusqu'au bout, jusqu'à une dernière scène où on va se poser la question de tout ce qu'on vient de voir, la réalité de tout ce qu'on vient de voir. Quoi. Finalement, il y a un côté, cette insomnie, ce côté somnambule, rêve éveillé qui traverse tout le film où on ne sait pas trop où se situe.
Ce qui est intéressant, juste Kefren, avant ton intervention, c'est que contrairement aux deux films chinois qu'on a cités juste avant, c'est-à-dire le Shashanke et puis le Vegan.
Tu oublies le jeune.
Et le je l'ai pas vu. Mais en gros, ces deux films-là sont vraiment dans la nostalgie et dans la recherche d'un monde perdu, que ce soit une vie perdue ou un amour perdu dans une société qui change, mais avec un côté très nostalgique, très pessimiste. Et ce qui se passe dans Les étendues imaginaires, c'est que comme Singapour est un pays très très jeune, ce qui a été créé dans les années 50-60, et que tout est à construire, et que c'est un pays très riche, et que les gens y viennent justement pour construire un avenir, tout ce côté pessimiste qu'on pourrait avoir en a priori sur ce monde des travailleurs migrants qui en chient pour construire des ports, en fait non, il y a un côté très optimiste, parce que
les mecs sont contents de bosser là parce qu'ils gagnent beaucoup plus de fric et en fait ils se tournent vraiment vers l'avenir pour essayer de, d'aider leur famille tout ça, et tout ce qui pourrait être très dépressif en termes de travail qui est vraiment très contraint, les mecs vraiment ils souffrent et tout, et en fait tout ça est gommé par finalement un aspect assez festif dans le film malgré tout.
Ah oui, je suis un peu plus mesuré sur, oui, ouais, sur ça. J'ai l'impression qu'il y a plutôt parfois une recherche de repères en fait, qui n'est absolument pas à Singapour, qui est, comme tu le dis, un pays extrêmement récent qui finalement manque, pas d'identité, mais en fait n'a pas une identité propre, qui est une identité qui se construit au fur et à mesure en fait, par toutes ces populations différentes. Quête, mais il y a une sorte de quête en fait, mais pas forcément si optimiste que ça en fait.
Il y a quand même une scène où un personnage est privé de son identité et de sa liberté et forcé de dire qu'il est plutôt bien traité.
L'est-il vraiment d'ailleurs?
Oui, c'est ça.
C'est une scène qui est quand même
qui met des doutes,
assez ambigu, mais ouais, du coup il peut pas dire autre chose que ce qu'il dit. Donc effectivement, il a en tout cas
peut-être pas. Oui, c'est ton interprétation de la chose. Ouais.
Parce qu'on
c'est aussi la mienne.
Parce que ça s'avère être assez négatif au départ.
On voit quand même quelques accidents de travail qui sont pas super cool. On les voit quand même.
Quelqu'un qui disparaît, il y a quand même un point de vue social qui est assez fort dans le film, mais qui est pas assez né non plus. Donc,
disons qu'il garde quand même l'espoir. Quoi. C'est pas des mecs qui se lamentent et qui veulent par exemple retourner chez eux. Quoi. Souvent, ils veulent rester, tout ça. Quoi.
La dernière image, c'est plus une. Je vois ça comme une note d'espoir, la dernière.
Le film intéressant, dans la mesure où c'est un film ultra contemporain, comme un peu souligné, c'est pas nostalgique du tout. Et justement, en salle, ce que le réalisateur réussit à retransmettre, c'est la virtualité du monde contemporain, mais tout en l'opposant avec les pulsions organiques propres à l'humanité. Et le film est tout le temps dans cette dualité. Par exemple, au début, le policier, quand il rentre chez lui, on le voit courir nu, et des choses comme ça. Et la scène de rêve, qui est la chose la plus virtuelle qui existe dans le film, a toujours un espèce d'impact avec des pulsions sexuelles ou des choses comme ça qui arrivent. Et il y a toujours une espèce de recherche de transcendance à travers le corps et à travers la virtualité. Et c'est pour ça que, par exemple, le climax du film, c'est la fête de la...
Putain, t'es en train de casser le truc là.
Une fête où il joue de la musique techno, qui est justement à propos de ça, à propos de rechercher la transcendance à travers une musique purement électronique, et justement de s'épanouir de manière physique à travers une musique qui est purement virtuelle.
Oui, mais le paradoxe, c'est quand tu parlais de Cameron Dewitt, tu évoquais Cairo, c'est aussi des corps qui disparaissent, donc effectivement il y a les scènes de danse qui sont assez belles et dans lesquelles les personnages retrouvent leur corps, leur rapport à la musique, mais après ce sont quand même des corps qui s'évaporent complètement, que ce soit des immigrés, des travailleurs, les gens disparaissent littéralement dans ce film.
Parce qu'ils sont pas véritablement intégrés en fait, ils sont utilisés, ils n'existent pas en fait en tant que tel. Ils sont utilisés comme des forces en fait.
Oui, mais la dernière scène, c'est un personnage... Bon, désolé pour ce que j'ai spoilé, mais c'est un personnage qu'on pense disparu qui s'avère peut-être être bien vivant. Donc c'est la toute dernière scène.
Oui,
c'est un personnage qu'on pense disparu et qui se matérialise finalement. Donc,
c'est encore... L'ambiguïté reste jusqu'au
bout.
Oui,
c'est la question, mais ça se passe, c'est-il pas envie de voir.
Je trouve la scène où le travailleur immigré est obligé de dire qu'il est très bien traité... beaucoup moins ambigu que ça, parce que je pense qu'il n'a pas d'autre choix que de dire ça et que personne n'est dupe.
C'est pas le sentiment que j'ai eu quand
j'ai vu ça. Autant je trouve que la dernière scène, là, est beaucoup plus vaporeuse par rapport à cette apparition d'un corps. On voit pas vraiment qui c'est peut-être la personne qui est recherchée, peut-être que cette personne n'existe pas en fait, que c'est le rêve du policier ou inversement.
En fait, c'est un tout parce qu'on part d'un point de vue complètement négatif où on pense qu'ils ont été supprimés explicitement, qu'ils sont morts. Et la dernière partie, on s'avère derrière, il y en a un qui est vivant. Bon, effectivement, il dit qu'il est bien traité, on peut se poser la question. Mais il s'avère bien vivant, ni blessé, ni torturé. Le point de départ, c'est qu'il est mort. On l'a jeté, on l'a enterré, c'est ce qu'on pense au départ. Ce qui n'est pas le cas.
Pire encore, on nous dit que finalement, sa présence physique a disparu. C'est-à-dire qu'il peut disparaître sans que personne ne s'en inquiète, tout en étant encore présent physiquement. C'est-à-dire qu'on peut lui demander... comment il va. Donc il y a un effacement complet de ce qu'il est.
C'est là où le film intéresse. C'est là où le film intéresse.
Non, non, moi je trouve pas optimiste en fait. Pas si pessimiste.
L'organique et le virtuel, c'est là où le film est intéressant sur l'identité des personnages. Et comme il disait, sur d'inciter à fortiori de qu'est-ce que c'est Singapour en fait.
Et ça fait aussi rebondir sur le fait du prochain film du coup de ce réalisateur. Puisque moi je l'ai interviewé, il m'a parlé un peu de ce qu'il voulait faire. Et en gros, c'est tout le système de surveillance caméra qu'il y a dans les villes en Asie du Sud-Est, notamment à Singapour, en Chine aussi, c'est le cas. Et en gros, de savoir est-ce qu'on existe et comment on est vu à travers les caméras de surveillance dans les différentes villes. Est-ce qu'on est d'autant que quand on est comme lui maintenant, quelqu'un qui est sous le feu des vraies caméras pour les médias, comment est-ce qu'on peut allier les deux, c'est-à-dire être un homme public, être filmé, faire des interviews et autres, et être filmé, mais quasiment à son insu, dans les villes. Est-ce qu'on est juste une image, ou est-ce qu'on est un être vivant à travers, derrière ces écrans? Et je pense que cette réflexion qu'il va avoir pour son prochain film, il l'a déjà, en fait, intrinsèquement dans ce film-là, quoi. Qui on est à travers un écran, et à travers, justement, est-ce que c'est ce côté virtuel et organique?
Oui, parce qu'effectivement, au final, le seul contact qu'on rend, je peux même pas dire dans le monde physique, parce qu'à aucun moment on sait vraiment si on est dans la réalité, mais le seul moment où les deux personnages, donc le flic et donc cette personne qui a peut-être disparu, rentrent en contact, c'est justement par l'intermédiaire d'un ordinateur, d'une image enregistrée de lui où il va retrouver le poste auquel. Donc la personne sur qui il enquête va dans le cybercafé et va être confrontée à une image lui-même, et c'est justement ça qui va lui donner un indice, c'est de voir cette image qui a été enregistrée de l'autre, voir son comportement à travers cette virtualité qui va lui permettre de poursuivre son enquête. Et, bon, c'est juste pour rebondir là-dessus.
Voilà, donc on a donc parlé des étendues imaginaires de Yoshiwa. Vous pouvez encore rattraper en salle après le dernier mot de Geffren.
Non, mais j'ai un truc à conseiller. Après ce que Marc a dit sur le prochain film, c'est qu'il y a un cinéaste expérimental qui s'est déjà attelé à la question, c'est Haroun Farouki, et qui fait beaucoup de vidéos expérimentales sur les caméras de surveillance, les points de vue de drones, etc., etc. Et ça serait intéressant de voir ses films en attendant le prochain film.